Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Eddie Claude Ninina Hazwe.
Nous sommes samedi 17 décembre 2022. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bien, merci pour votre fidélité au rendez-vous du journal en français. Voici d'abord les principaux titres. Comparution ce vendredi du journaliste Florian Ilangavie devant les juges du tribunal de grande instance de Mukasa, poursuivi dans un dossier d'atteinte à l'intégrité nationale. Son procès sera prononcé en deux à huit jours. Cela fait 9 mois que les réfugiés burundais du camp de Lusenda en RDC ne sont pas assistés en matériel de propreté. Un demi-morceau de savon par famille servi récemment ne leur a pas suffi pour faire face aux besoins d'hygiène. Ces réfugiés lancent un appel à l'aide du HCR. Focus sur le système d'exportation du thé récemment critiqué par le chef de l'État burundais, à suivre dans le magazine Au cœur de la société de tous les samedis. Voilà pour le titre. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons ce journal par la page justice. Le tribunal de grande instance de Mukasa en mairie de Bujumbura a auditionné ce vendredi dans la prison centrale de Muyinga la journaliste Florian Ilangavie accusée d'atteinte à l'intégrité nationale. Le verdict sera prononcé dans 8 jours, le point avec Francine Kanyangé.
Cette deuxième comparution devant le tribunal de grande instance de Mukasa a eu lieu à huis clos ce vendredi dans la prison centrale de Muyinga où est détenue la journaliste Florian Ilangavie de la radio Igitaniro. Selon des sources proches du dossier, lors de cette audience, elle a été assistée par ses avocats et l'affaire a été mise en délibéré. Lors de la première comparution devant le tribunal le 28 octobre dernier à Muyinga, le procureur avait demandé plus de temps pour rassembler des preuves sur les crimes dont est accusé Florian Ilangavie. Florian Ilangavie a été arrêté le 30 août de cette année. Il a passé 21 jours à la prison centrale de Mimba avant d'être transféré à la prison centrale de Muyinga le 29 septembre dernier. Les défenseurs des droits de l'homme, le mouvement des femmes et filles, les organisations des journalistes tant nationaux qu'internationaux ont tous clamé l'innocence de Florian Ilangavie, accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national, estimant qu'elle n'est victime que de son métier de journaliste.
Merci Francine Kanyangé. Grogne chez les réfugiés burundais vivant au camp de Lusenda en République démocratique du Congo. Ils viennent de passer plus de 9 mois sans recevoir du savon. Même s'ils ont été servis actuellement, chacun a reçu un demi-morceau de savon. Ces réfugiés s'inquiètent pour leur propre santé et craignent d'attraper la maladie des mains sales. Ils demandent aux responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR de leur venir en aide en leur octroyant du matériel pour la propreté et surtout du savon en quantité suffisante. Le point avec Pierre Garungu.
Ces réfugiés burundais du camp de Lusenda viennent de passer plus de 9 mois sans savon. Selon les informations recueillies dans ce camp, même s'ils viennent de recevoir du savon, ils ne sont pas satisfaits car chaque individu a reçu un demi-savon. Quelques réfugiés qui se sont entretenus avec la radio Nzamba nous décrivent la situation.
Nous venons de passer plus de 9 mois sans recevoir de savon. Ils viennent de nous donner un demi-savon pour chaque personne. C'est insuffisant. Cela faisait trop longtemps que nous ne recevions pas de savon. 9 mois sans savon. Imaginez cette situation. Il faut qu'ils nous distribuent régulièrement le savon. Sinon, les élèves risquent de s'absenter en classe par manque d'habits propres pour se rendre à l'école et nous craignons aussi d'attraper des maladies des mains sales. Un demi-savon n'est pas suffisant pour laver les enfants, nos habits et pour la propreté nécessaire dans le ménage. Qu'allons-nous faire?
Ils demandent aux organisations internationales chargées d'aide humanitaire, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au Programme Alimentaire Mondial et au gouvernement congolais de leur distribuer du savon nécessaire et en quantité suffisante.
Nous demandons aux organisations chargées de distribution du savon de le faire régulièrement, car un demi-savon pour une personne, c'est insuffisant. Nous ne gagnons rien, je viens de l'intérieur où ils nous distribuent du savon. C'est vraiment scandaleux. Un petit morceau de savon qui se termine jusqu'au premier lavage. Allons-nous encore attendre les 9 mois? Nous demandons à ces organisations qui nous viennent en aide de nous faire une distribution par mois, car nous sommes malheureux dans ce camp.
C'est au moment où ces réfugiés burundais ne peuvent pas sortir dans leur camp pour des raisons de leur sécurité. Tout ce qu'ils utilisent provient de l'aide humanitaire.
Merci à toi Pierre Garungu, c'est à présent le moment de la revue de la presse qui nous est lue par Alexandre Nyungeko.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bonsoir ou bonjour à vous tous qui écoutez la radio Inzamba Gate Kakaoué. La revue de la presse de ce samedi s'ouvre sur les abandons scolaires des écoliers rapatriés dans la province de Kirundo. Le journal La Ligne et SOS Média parlent de 900 élèves qui ont abandonné l'école pendant l'année scolaire 2021-2022. Lors de la dernière visite du Premier ministre burundais, quand il rencontrait les chefs de service dans cette province la semaine dernière, les autorités provinciales ont affirmé que ces écoliers ont abandonné à cause du changement du système d'enseignement. Ayant évolué pour la plupart dans le système anglophone, ces enfants n'ont pas pu s'adapter au système francophone. En plus, les rapatriés venus d'exil dans les pays anglophones doivent reculer de 2 à 3 classes pour pouvoir étudier dans le système d'enseignement burundais. S'étant découragés, certains ont préféré abandonner l'école, selon toujours les autorités de la province Kirundo. Le Premier ministre Gervais Nirakobucha a demandé aux responsables scolaires, je cite, de réserver un accueil chaleureux aux enfants rapatriés et de soumettre leur rapport au ministre en charge de l'éducation. Fin de citation. Nous poursuivons avec le journal Iwachu. Rumonge, coup de balai au sein de l'administration communale, titre Iwachu, accusé de détournement du matériel de construction offert par le bureau de la présidence de la République. 3 administrateurs sont locataires de la prison de Mulembwe depuis la semaine dernière. Il s'agit de Gratien Louayo, administrateur de la commune Wuyengero, Jérémy Viziman, administrateur communal de Rumonge, et Charles Karolero, qui était à la tête de la commune Bugarama. Au courant de la même semaine, ces administrateurs ont été systématiquement arrêtés, accusés de détournement de tôle et du ciment. Des autres administrateurs des communes Wurambi et Mubuta ont été auditionnés sur le même dossier le samedi dernier par le procureur près de la cour d'appel de Bururi. À côté de ces administrateurs, le conseiller de gouverneur de la province Rumonge, chargé des finances et administration, est emprisonné à la prison de Rumonge pour complicité de détournement de ce matériel destiné à la construction des écoles en province de Rumonge. Ceci était pour continuer avec le journal Burundi Echo. Selon ce journal, beaucoup de cas de divorce sont signalés en 2002 dans la mairie de Bujumbura. Selon Agnès Vangilicheng, porte-parole de la Cour suprême, au cours de cette année, 336 cas de divorce ont été enregistrés dans les communes Muha, Mukaza et Nahangwa. Madame Josiane Chiza, psychologue, trouve que la situation est alarmante et évoque des raisons qui sont à la base de divorce dans les ménages, et c'est notamment le mauvais traitement des femmes par les hommes qui vont jusqu'à frapper leur conjointe. En plus, il y en a qui privent leurs femmes le droit d'exercer un travail rémunérateur. D'autres encore ne permettent pas leurs femmes de gérer leur salaire. Selon cette psychologue, ne pouvant pas accepter une telle situation, des femmes préfèrent se séparer définitivement de leur mari. De son côté, Alexis Ndaiziga, un autre psychologue, ajoute à ces causes précitées l'adultère, l'infidélité, la dilapidation du trésor familial et la condamnation de l'un des époux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous bouclons cette revue de la presse de ce samedi. Vous étiez avec Alexandre Nyungeko. Au revoir et bon week-end à tous.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Et comme tous les samedis, dans la synergie des médias, au cœur de la société, le mini-magazine d'aujourd'hui se focalise sur le système d'exportation du thé récemment critiqué par le président de la République du Burundi. Au cœur de la société, vous est présenté par Émile Nivasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idruya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Il a dit que les dirigeants de l'OTB constituent un obstacle à la rentrée de plus de fonds dans les caisses de l'État. Le président Evariste Ndayishimiye a montré qu'il n'est pas parvenu à les convaincre à exporter le thé dans les pays qui pouvaient payer plus d'argent parce que ces responsables de l'OTB privilégiaient leur commission. Ces grognes du chef de l'État sont-elles fondées? Pour répondre à la question, nous avons invité le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Émile Nibasumba, je suis à la présentation de ce mini-magazine au cœur de la société du 17 décembre 2022. Vous êtes les bienvenus. Le 3 décembre dernier, il y a deux semaines, alors qu'il inaugurait le bureau de la province Kayanza, le président Evariste Ndayishimiye a déclaré que l'office du thé du Burundi a refusé de vendre sa production dans les meilleurs marchés d'Égypte et du Nigeria.
L'Égypte nous a demandé d'acheter le thé du Burundi pour que les militaires et les policiers boivent le thé du Burundi, mais jusqu'à maintenant l'OTB a refusé d'honorer notre promesse. Vous pensez que c'est pour quelle raison? Les commissions qu'ils reçoivent, ils craignent de perdre les frais de commission qu'ils reçoivent si le thé du Burundi transite par Mombasa. Vendre le thé en Égypte à un prix plus élevé serait une perte pour eux, car la quantité du thé exporté ne serait plus en secret et ainsi les devises qui viennent de l'exportation du thé rentreraient dans les quais de l'État en totalité. Moi j'ai un franc parler. Sinon, explique-moi pourquoi l'OTB refuse de vendre le thé au mien d'USA. Ils refusent de perdre les commissions qu'ils reçoivent quand le thé transite par Mombasa. Personnellement, je me suis rendu au Nigeria. Ils m'ont demandé la quantité du thé qu'ils produisent. J'ai appelé Jacques Ebigilimana, alors directeur général de l'OTB. Au Nigeria, ils m'ont dit qu'ils sont prêts à acheter toute notre production. Après, j'ai demandé à l'OTB de s'organiser pour vendre toute sa production au Nigeria. Jusqu'à maintenant, aucune tonne n'a été vendue au Nigeria. Ils ont peur que nous soyons au courant de la quantité du thé exporté. Ils ne veulent pas que toutes ces devises rentrent dans les caisses de l'État. Ils m'entendent ici. Moi, je ne peux ne pas le dire pour couvrir les gens qui ne souhaitent pas que le Burundi se développe. Je ne sais pas.
Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, Faustin Ndikumana, estime qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement institutionnel et au niveau du cadre de prise de décision.
Il faut analyser plutôt l'aspect fonctionnement institutionnel, dysfonctionnement institutionnel, ou bien les cadres dans lesquels les mesures sont prises. Parce que des fois, le président de la République fait des annonces, une volonté, il fait des annonces comme des mesures, des volontés pour qu'une mesure soit mise en application. Mais il faut clarifier le cadre dans lequel la mesure est prise. Parce que le cadre formel est nécessaire. Est-ce que cette mesure que le président veut qu'elle soit en application a-t-elle été prise dans un cadre formel comme le Conseil des ministres pour qu'elle soit débattue dans un cadre beaucoup plus élargi? Et quel organe technique? Il faut un organe technique qui évalue les avantages et les conséquences par rapport à telle ou telle autre option prise dans l'exportation de tel ou tel autre produit. J'imagine que ça c'est très important. L'aspect technique, il y a des experts qui doivent clarifier au niveau technique les avantages et les inconvénients pour éclairer, pour donner les bases qui éclairent la décision des supérieurs, la décision politique. Sinon, on ne comprend pas. Est-ce que le président décide les institutions hiérarchiques inférieures ne suivent pas? C'est une désobéissance. Pourquoi ceux qui ont désobéi ne sont pas sanctionnés par après? Il y a un problème de dysfonctionnement institutionnel et un problème de cadre dans lequel, le cadre formel dans lequel les décisions sont prises. Sinon, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Si on veut redresser le secteur T, on mise d'abord sur la quantité produite, la filière T. Il y a des problèmes à régler, il y a la production, l'engrais, aspect technique, scientifique, innovation, semences sélectionnées, comment rémunérer les citoyens. Il y a des aspects techniques qu'il faut régler, mais avec comme objectif final l'augmentation de la production, mais de qualité. Là, l'offensive marketing, tourisme, tout ça, pour que notre thé soit vendu. Mais l'aspect technique, parce qu'on peut voir, par exemple, vendre à tel ou tel autre endroit. il faut différencier le mode de transport par, ou bien ici c'est par voie routière, c'est par voie maritime, c'est par avion. Là aussi il y a des différences au niveau des coûts de transport supplémentaires qui s'ajoutent au prix de la marchandise. J'imagine qu'il faut déblayer, il faut qu'il y ait des cadres techniques, fonctionnaires, expérimentés qui écrivent les décisions des décideurs. Sinon, le souhait, le président peut souhaiter dire, je vais sauter sur la mer. Dans quel cadre formé sera été décidé? Quelle est l'institution technique qui a sous-tendu la mesure?
En 2020, le Burundi a produit 11 500 tonnes de thé et le TB envisage une production de près de 20 000 tonnes en 2027. Il faut signaler aussi que les dirigeants de l'Office du thé du Burundi, OTB, sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 17 décembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. À samedi prochain, si Dieu le veut.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Emile Nibasumba pour ce magazine Au cœur de la société. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Eddie Claude, Ninina Azoué à la présentation. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir et à la prochaine.